CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30. La vie du Grand Rodez.
Bonjour à tous, c'est le MAG Grand Rodez en CFM et comme un mardi sur deux, nous retrouvons Myriam Laure et ses invités surprises. Bonjour Myriam.
Bonjour David.
Tout va bien ?
Tout va parfaitement bien, oui.
Dernière émission avant les fêtes de Noël.
Voilà.
Et tu nous as gâtés, ça brille de tous les côtés.
Ah, ça brille de tous les côtés, oui.
Trois invités avec nous aujourd'hui dans le studio. On va commencer avec le monsieur en uniforme. Hein,
voilà.
Même si on va parler d'uniforme par ailleurs aussi dans cette émission, avec le lieutenant-colonel Dominique Vuitton. Bonjour colonel.
Bonjour à vous, merci de m'avoir invité.
Je vous en prie, bien volontiers. Vous êtes lieutenant-colonel Dominique Vuitton, délégué militaire départemental.
Voilà. Tout à fait.
Donc alors, rien que là, j'apprends quelque chose. Délégué militaire départemental, je ne savais pas que ça existait.
Ça existe dans tous les départements. Le délégué militaire départemental est un officier qui est mis à disposition du préfet pour toutes les missions qui pourraient relever du ministère de la Défense. Le délégué militaire départemental représente l'officier général de la zone de défense dont il dépend. Pour nous, c'est Bordeaux, où nous avons le général de corps d'armée aérien Coste Furet, qui commande l'ensemble de la zone dans ce qu'on appelle la chaîne OTIAD. C'est tout ce qui traite de la sécurité intérieure avec implication de la défense. Alors, je parle pas de crise, de manifestation, d'armée dans les banlieues, tout ce genre de choses. C'est pas ça. C'est catastrophe naturelle. Voilà, ce genre de choses. Quand on
un
a besoin de l'appui, voilà. Un avion qui s'écrase, tout à fait, ça, ce genre de choses. Civil ou militaire, s'entend,
Bien sûr.
Par contre, en cas de conflit armé, peut-être soudain,
Oui, bien sûr, en dernier recours.
Parachutage sur l'Aveyron.
Oui,
en dernier recours.
Mais t'as raison.
On ne sait jamais. On peut pas savoir. Une chute d'extraterrestres, envahisseurs, allons savoir.
Là, vous êtes libre de vos propos.
Mais il y a des plans, je suis sûr qu'il y a des plans. Même en cas d'attaque extraterrestre sur l'Aveyron.
Et puis il y a le Larzac en Aveyron.
Alors le Larzac qui a le centre, le CEITO, le centre d'entraînement et d'instruction du tir opérationnel, qui est en place et qui, je veux rassurer les habitants de la région de Millau et de la cavalerie, qui est toujours prévu rester, on ne parle plus du tout de son déplacement sur Conjuers.
Deuxième invité avec nous aujourd'hui dans le studio, Renaud Chouvert. Bonjour Renaud.
Bonjour David.
Renaud, vous êtes directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Oui, tout à fait. Donc ça concernera le colonel quand il sera plus vieux et qu'il aura fini, il aura rendu l'uniforme.
Eh oui, ancien combattant.
Tout à fait.
Ça concerne combien de personnes en Aveyron ?
Alors en Aveyron, à l'heure actuelle, ça concerne 9000 personnes, entre 9000 et 9500 personnes, parce que ça concerne à la fois les anciens combattants, mais aussi ceux qu'on appelle les ayants droit, et notamment les veuves.
Troisième invité, on va poursuivre la discussion un petit peu plus tard dans cette émission avec Myriam Laure, évidemment, je le rappelle, responsable éditorial du Petit Journal Aveyron. Myriam, troisième invité donc avec nous aujourd'hui, Ludovic Jurion, et vous êtes fondateur et conservateur du Musée de l'Uniforme. Deuxième chose que j'apprends aujourd'hui, du Musée de l'Uniforme, qui est pourtant tout près d'ici, en Aveyron, à Livignac-le-Haut.
Oui, bonjour. Eh bien, merci de m'avoir invité. Tout à fait. Donc, si Renaud Chouvert s'occupera du colonel Vuitton quand il aura rendu son uniforme, nous, avec un peu de chance, on s'occupera peut-être de son uniforme s'il nous en fait don un jour. Voilà.
Voilà.
C'est un musée de l'uniforme qui existe depuis combien de temps ?
Alors, on attaque la troisième année là actuellement.
Ah, bon.
L'association est un peu plus ancienne. Actuellement, on occupe la troisième année d'ouverture au public.
Très bien. Mais des uniformes militaires
Alors, ce sont des uniformes qui sont liés à l'histoire militaire.
Petites infirmières
Voilà, exactement. Non, pourquoi pas
ça
je dirais que c'est avant tout un musée d'histoire qui n'est pas forcément le musée de l'institution militaire, mais qui est le musée des hommes et des femmes qui un jour ont participé d'une manière historique ou plus anonyme à l'histoire de notre pays.
Ce musée couvre combien de conflits ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, parce que bon, c'est vrai que y a toujours le problème de place, mais avec la place dont on dispose, on arrive à peu près à balayer depuis la restauration. On va dire le début du 19e siècle, l'Empire et Restauration jusqu'à la 5e République, jusqu'à à peu près 1960.
Ce musée, bon, j'imagine qu'une fois qu'on est à Livignac-le-Haut, on peut pas le louper.
C'est vrai.
Mais vous êtes ouvert toute l'année ?
Oui. Alors, on est ouvert toute l'année au public sur rendez-vous. pour des individuels ou des groupes.
Oui.
Et puis après, sans rendez-vous, on va dire, à partir de mars, avril, jusque novembre.
On va développer tout ça dans cette émission.
Oui.
Myriam, ça va être riche. Hein.
Ah oui.
Hein, donc, allez, on va partir tout de suite en musique. Je vous ai proposé de choisir ce que l'on allait écouter ensemble. Et c'est le lieutenant-colonel Dominique Lutong qui a choisi d'écouter Zaz. Vous
tout
êtes amateur de cette, la petite chanteuse Zaz, vous aimez
tout
bien?
Tout à fait, surtout de sa voix, qui est une voix assez spéciale et très très bien.
Et vous avez choisi en plus un extrait de son dernier album, vous vous rappelez du titre?
Cette journée.
Et on se retrouve tout de suite après dans le Semag en Rodas en CFM.
Et ne remettre à rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Au lendemain de nos adieux, sur le chemin de ma vraie vie, une autre couleur dans les yeux, un peu de peur et d'interdit. Comme on s'est laissé par amour, sans la tristesse des regrets, comme un accord et pour toujours, un peu de nos caresses en secret. Cette journée nous appartient, et ne remettre à rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Ah, 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 tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Et si les années sont passées sur ton visage et ton sourire, si j'ai bien souvent repensé à ton odeur et tes soupirs, à me redemander pourquoi, si je ne sais plus qui j'étais, avant que ce soit toi et moi, pour quelques heures, tout jamais. Cette journée nous appartient, et ne remettra rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis
C'est le mag Grand Rodez en CFM avec Myriam Laure. Comme tous les 15 jours, Myriam Laure, responsable éditoriale du Petit Journal Aveyron. Aujourd'hui, Myriam
oui.
est accompagnée de ses trois invités, avec le lieutenant-colonel Dominique Vuitton, qui est délégué militaire départemental. On va découvrir un petit peu plus en détail vos activités, colonel. À vos côtés, monsieur Renaud Chouvert, qui est directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Et puis avec nous aussi aujourd'hui, Ludovic Jurion, fondateur et conservateur du musée de l'uniforme. Un musée de l'uniforme qui est situé à Livignac-le-Haut, dans l'Aveyron, bien évidemment.
Oui, donc nous allons revenir tout d'abord sur l'ONAC. Pour présenter Monsieur Chouvert dans son activité, qui est en relation donc permanente avec le colonel Vuitton et Monsieur Jurion.
Alors, l'ONAC, c'est un acronyme qui veut dire Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre. C'est en fait un office qui est très ancien, qui date de, en gros, qui est un agrégat de différents offices, donc qui a été constitué après la Première Guerre mondiale, et qui a une vocation, dans un premier temps administrative, de gestion des anciens combattants. Donc, c'est l'attribution des cartes de combattants, des droits qui sont afférents à ces cartes. Et ensuite, on a dérivé sur des missions qui étaient liées, qui étaient logiques, comme la mémoire, par exemple. Donc, aujourd'hui,
oui.
l'office s'occupe, est un des principaux principaux vecteurs de la mémoire en France, et aussi la solidarité, puisque je m'occupe aussi d'un budget solidarité que je vais avoir pour tâche de répartir, on va dire, ou du moins de proposer à une commission départementale de répartir entre les personnes qui ont des besoins. Ça peut être les anciens combattants, ça peut être les veuves d'anciens combattants qui vont se retrouver en difficulté pour des frais d'optique ou autre, et donc on va aider ces personnes. Plus que le milieu militaire, c'est encore plus restreint, c'est les anciens combattants. Il faut savoir que tous les militaires ne sont pas des anciens combattants. Ancien combattant, c'est quelqu'un qui a participé à un conflit.
Ah oui, Myriam, d'accord. Faut pas pousser quand même.
Oui, mais c'est intéressant de bien faire le point, parce que pour les jeunes comme les moins jeunes comme moi, de temps en temps, on fait quelques confusions. Voilà.
On accompagne énormément les veuves. On a aussi, un accompagnement très fort sur les pupilles de la nation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, des militaires meurent, des militaires français sont tués au combat, et que donc ils laissent souvent des enfants et des enfants en bas âge. Et là, c'est le directeur départemental qui va adopter les enfants au nom de l'État. Et c'est lui qui va, grâce à l'office, entourer ses enfants, en plus bien sûr de la famille, mais qui va entourer ses enfants pour essayer, non pas de pallier l'absence du père, mais au moins d'aider la famille, que ce soit matériellement, que ce soit aussi administrativement et psychologiquement. Il y a encore aujourd'hui en France des victimes de guerre. Quand vous avez un gamin ou deux ou trois gamins qui jouent avec des anciennes munitions, il y en a une qui éclate, que le gamin perd 3 ou 4 droits, ce gamin est une victime de guerre. Et donc ce gamin va être ressortissant de l'office et on va aider à l'appareillage de ce gamin pour faire une prothèse, on va l'aider au niveau scolaire s'il y a des difficultés, on va entourer ce gamin qui sera une victime de guerre.
On va poursuivre avec vous, lieutenant-colonel Dominique Vuitton. Vous êtes donc délégué militaire départemental.
Oui.
C'est des fonctions que vous occupez depuis combien de temps ?
Alors, je suis arrivé en Aveyron, en septembre 2012, donc un peu plus d'un an.
D'accord.
Donc, comme je vous disais, je représente l'officier général qui se trouve à Bordeaux, dont je dépends. Il a sous sa coupe une vingtaine de 20 départements du Grand Sud-Ouest. Et je suis donc le conseiller militaire du préfet pour toutes ses responsabilités de défense. Je suis, entre guillemets, l'expert en défense sur le département.
Oui. Mmh.
Et je suis évidemment le contact privilégié des armées quand elles veulent venir en Aveyron, soit pour faire des exercices, soit pour des soucis particuliers. Une des missions malheureuses du DMD, c'est quand le régiment n'est pas, la famille du décédé n'est pas dans le département du régiment, ce sont les DMD qui ont pour mission d'aller prévenir les familles.
Vous allez prévenir, excusez-moi, là ça fait détail, ça fait penser à des films. Donc vous allez prévenir les familles.
On se déplace.
Et oui,
comme dans les films.
Oui, il tape à la porte un jour pour expliquer ce qui vient de se passer.
On fait rarement par téléphone, tout ça. On le fait parce qu'il y a eu une polémique pour un des parents d'un des deux décédés en RCA qui a été prévenu par téléphone. Mais c'est uniquement pour pas qu'il soit mis au courant. On n'arrivait pas à le joindre, qu'il soit mis au courant par la presse. Parce qu'il y a toujours le problème de la presse.
Le problème, des fois, ça vous arrange.
Pas dans ce cas-là.
Pas souvent,
pas dans ce cas-là.
Dans ce cas-là, c'est plutôt indélicat. Voilà.
Oui. Concernant vos fonctions, donc vous disiez, vous êtes auprès du préfet. Mais alors, concrètement, sans dévoiler de secrets, par exemple, là, cette année, sur quoi vous avez travaillé ? C'est quoi un peu les dossiers pour qu'on imagine ?
Ça, c'est ma mission principale. Cas de crise. Heureusement, dans l'Aveyron, il n'y a pas de crise.
On ne sait jamais.
Problème.
Oui. Pour l'instant, attention.
J'ai un petit peu travaillé cet été sur justement les intempéries qui avaient un peu dévasté l'ouest de l'Aveyron.
Les orages.
Donc on a fait quelques études là-dessus. Après, la sécurité civile est intervenue. Voilà. Mais après, j'ai d'autres missions. Alors, j'ai des missions. Je suis commandant d'armes de la garnison de Rodez. J'organise les trois cérémonies principales, le 8 mai, le 14 juillet et le 11 novembre. Ensuite, j'ai une autre mission qu'on appelle de rayonnement, c'est-à-dire avec dans le cadre d'une convention avec l'Éducation nationale, l'Institut des hautes études de la Défense nationale et le ministère de la Défense que je représente, ce qu'on appelle le trinôme académique. J'organise des manifestations, des rallyes citoyens, par exemple, que j'ai fait. J'ai fait un rallye citoyen en avril 2013 au profit de collégiens de 3e dans la ville de Rodez. Et au cours de ce rallye, ils ont pu découvrir certains services et certaines administrations de la ville de Rodez. J'ai mission de lien armée-nation.
Vous êtes combien à Rodez de
Alors,
militaires?
On est extrêmement nombreux.
Ah bon?
Il y a moi, un sous-officier et un personnel civil.
Ah ouais, d'accord.
Voilà, on est trois.
Ouais. Trois. Trois Rodez.
Parce que non, mais je me disais, mais attends, moi, ça fait que je suis à Rodez que depuis trois ans. Je me disais, mais j'ai pas vu de fort, j'ai pas vu
tu
de caserne.
Tu as pas encore vu défiler les troupes.
Voilà,
c'est un peu ma difficulté. Mais bon, voilà. En ce temps de restriction des effectifs militaires, je ne pense pas que je vais être renforcé. Je suis stationné à ce qu'on appelle la Tour Viala. En face de l'université Champollion.
D'accord.
Juste à côté de la gendarmerie. La grande tour métallique. Voilà, ce sont mes bureaux.
Une petite question toute bête. J'ai fait mon service national, moi, à l'époque. Très bon souvenir. J'étais en Allemagne. J'étais dans un état-major. Et je me souviens qu'à l'époque, une des choses qui m'avait marqué et intéressé, mais sans rentrer dans le détail, c'était qu'il y avait, en l'armée, il y avait des plans pour tout. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que depuis, c'est vrai qu'il n'y a plus service national. Est-ce que vous avez, sans dévoiler de secret, des plans, vraiment, mais des plans pour tout? Je veux dire, une invasion, je disais extraterrestre. Je suis sûr qu'il y a quelque chose, hein. Je dis ça, je suis sûr.
Non, c'est pas.
Ou en cas de conflits continentaux. Ou...
On a des plans, on a toujours des plans préparés. De toute façon, il faut toujours prévoir ce qui pourrait arriver. Alors, imaginez qu'est-ce qui pourrait arriver en Aveyron. En Aveyron, il pourrait arriver un problème, je vais dire, nucléaire, biologique, chimique, parce qu'on a une attaque, etc. Donc il faut savoir où aller chercher le matériel. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire. S'il y avait une menace terroriste, il faut savoir quels sont les endroits un peu sensibles du département.
Sensible.
Voilà, ces plans permettent de travailler sur ces sujets-là et de répertorier les endroits.
Oui, donc, voilà,
mais les extraterrestres, j'ai pas encore vu le plan. Alors, peut-être que dans l'état-major parisien, ils travaillent dessus, mais c'est pas descendu encore dans la ville.
Bon. Pas encore.
Allez, on va poursuivre dans ce magro Rodez en CFM avec Ludovic Jurion, qui est notre invité et le fondateur et conservateur du musée de l'uniforme à Livignac-le-Haut. Mais il est déjà l'heure de passer à notre second titre dans cette émission. Alors après Zaz, on va faire une découverte en ce qui me concerne. C'est votre choix, monsieur Renaud Chouvert. Vous avez voulu écouter
Lord Royal.
On va l'écouter, mais comment vous connaissez? Moi, je connais pas. Comment ça se fait?
C'est une chanteuse australienne.
Voilà,
qui
est très jolie, qui a une très belle voix, il faut bien le dire, et les paroles sont intéressantes aussi.
Oui, sûrement. Bon, je me disais aussi, allez, on va écouter Lord et moi, je vais aller jeter un coup d'œil. C'est le magro Rodez en CFM.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Friends in the eye, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. Driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
crave a different kind of buzz. Let me be your ruler,
ruler.
You can call me Queen Bee,
and baby I'll rule,
I'll rule, I'll rule. Let me live that.
C'est le mag Grand Rodez en CFM avec le petit journal à Aveyron, Myriam Laure, sa responsable éditoriale et ses invités aujourd'hui, le lieutenant-colonel Dominique Vuitton qui est délégué militaire départemental, Renaud Chouvert, directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et puis Ludovic Jurion, fondateur et conservateur du musée de l'uniforme, un musée de l'uniforme que l'on peut aller découvrir à Livignac-le-Haut. Et je reviens vers vous Ludovic justement, parce que moi je suis pas allé le découvrir encore ce musée de l'uniforme, je ne connaissais pas, j'avoue. Alors vous nous disiez tout à l'heure avec Myriam, vous repreniez des uniformes depuis la restauration. Alors restauration pour situer dans le temps pour les nuls en histoire.
Bon, à peu près à partir du début du 19e siècle, donc on va dire à partir de 1815-1818. La pièce la plus ancienne qu'on présente au musée très exactement est un sabre du Premier Empire de 1812. Voilà, c'est la pièce
Napoléon.
La plus ancienne. Napoléon.
La fin.
Voilà. Pour avoir une bonne référence chronologique, c'est Napoléon Ier. Voilà.
Très bien. Et ces uniformes, parce que moi je me tourne vers vous, je reviens à mon service national, à l'état-major au premier étage, il y avait, ça avait un nom, mais c'était pas les archives, mais bon, et il y avait tout plein de, d'uniformes, toute l'histoire du régiment qui était là.
Ouais, c'est souvent ce qu'on
salle
appelle
d'honneur.
Salle d'honneur. Merci colonel, c'est ça. C'était très beau, c'était quasiment un musée en soi. Donc vos uniformes, vous les récupérez auprès de l'armée ou vous avez vos chemins détournés?
Alors on a nos chemins détournés. Souvent on arrive à les détourner avant que ça n'arrive justement dans les salles d'honneur des régiments. C'est notre gros travail. Alors juste pour revenir un petit peu, justement, le titre musée de l'uniforme, j'essaie de le dépoussiérer un petit peu parce que contrairement un petit peu à l'image qu'on peut en avoir, ce n'est pas un musée de l'uniforme. On présente des uniformes, entre autres. On présente des objets aussi de la vie de tous les jours. C'est un musée qui raconte l'aventure des gens, d'hommes et de femmes, qui à un moment donné ont porté l'uniforme et ont participé à l'histoire de notre pays. Mais ce n'est pas l'image qu'on peut en avoir d'un musée où derrière des vitrines on stocke des uniformes et où on présente uniquement des uniformes.
Mais on en voit quand même.
On en voit, mais sûrement,
les uniformes.
Mais c'est surtout pas l'idée du musée. La politique du musée, c'est un musée particulièrement humain qui, au niveau de l'échelon humain, présente l'histoire, les anecdotes que des hommes et des femmes ont vécues à un moment donné.
Alors justement, cet été, il y a eu une manifestation avec des mises en scène.
Voilà, exactement. Alors ça, c'est une des particularités aussi de notre musée. On a quelques particularités vraiment qui nous rendent assez uniques en tant que musée. C'est un côté, un aspect histoire vivante, puisque l'idée aussi, la politique de notre association, c'était de dépoussiérer non seulement le terme un peu uniforme, mais aussi le terme musée, de montrer que le musée, c'est pas uniquement un endroit sombre où on va en famille quand il pleut, mais que le musée, ça peut être quelque chose de très vivant, c'est de l'histoire vivante, et de sortir aussi un petit peu les collections des murs, et de les présenter dans un contexte beaucoup plus vivant, un contexte historique aussi, pour recréer un petit peu l'histoire à grandeur nature, et puis aussi un aspect un petit peu ludique, parce qu'il faut bien reconnaître que quand on fait vrombir des moteurs et qu'on montre des jeunes gens qui reconstituent un petit peu de manière réelle la vie des soldats, ça a toujours un petit côté ludique pour les visiteurs.
D'accord. Vous parliez de prise de rendez-vous pour venir vous visiter prochainement ou un petit peu plus lointain. Comment on fait pour vous contacter au musée?
Alors, il y a de nombreux moyens. Déjà, on a nos coordonnées sur Internet. Il suffit de taper sur Google. Il y a plusieurs pages sur le musée de l'uniforme de Livignac-le-Haut. Donc, il y a un numéro de téléphone.
D'accord.
On peut contacter la mairie qui a nos coordonnées aussi très souvent. Et puis, on a un numéro de téléphone qu'on trouve assez facilement pour nous contacter. Alors une autre particularité aussi, c'est que contrairement à des musées classiques, nous ce que nous faisons, c'est que nous faisons un énorme travail de scénographie. En fait, c'est quelque chose de passionnant d'ailleurs, ça va au-delà. C'est que en fait, on met en scène véritablement les objets historiques que nous possédons, donc des véritables. Il n'y a aucune reconstitution, reproduction. Hein, ce ne sont que des objets et des uniformes d'époque, mais nous les présentons sur ce qu'on appelle des dioramas, c'est-à-dire que ce sont des mises en scène.
D'accord.
Dans des conditions le plus proche de la réalité possible, avec des décors, donc il y a un véritable travail de scénographie. Ce qui fait qu'il faut éluder l'aspect musée et salle de musée classique, mais plutôt y voir une exposition gigantesque de scénettes qui reproduisent des grandes pages de l'histoire, à la fois de l'histoire de France et même qui mettent en jeu d'autres pays.
Colonel, vous, depuis le début de votre carrière, enfin, vous avez pu conserver vos uniformes, on peut les conserver ou pas? Votre premier uniforme, vous l'avez toujours?
Bien sûr, on peut les conserver. Personnellement, non, parce que je ne suis pas
collectionneur
de ça, et puis bon, les uniformes, on en change assez souvent, mais j'aurais pu les garder.
Là, vous êtes délégué militaire départemental, je le rappelle, mais sinon, c'est tout récent, ça date d'un an, sinon vous venez de quel corps?
Alors moi, je suis d'origine, je suis troupe de marine avec la spécialité parachutiste.
D'accord.
Donc j'ai servi essentiellement à Carcassonne, au 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine et à la brigade, à l'état-major de la brigade parachutiste.
Puisque vous disiez tout à l'heure que vous étiez combattant, c'est que vous avez fait des opérations extérieures. Sur quel pays vous avez été balancé?
Ah, mais j'ai fait une douzaine de pays d'Afrique, essentiellement d'Afrique centrale.
Oui, donc au jour d'aujourd'hui, vous savez de quoi il en est
Connaissez-le le
territoire.
La République centrafricaine, je connais bien, j'ai été plusieurs fois. Donc je connais bien, je sais que c'est un théâtre difficile, avec une mission difficile pour nos hommes qui sont là-bas.
Et donc, ce que l'on apprend aussi avec vous, colonel Dominique Buton, c'est qu'être militaire, c'est à la fois, ça peut être avoir des responsabilités sur un territoire comme l'Aveyron, être un peu dans le côté administration, organisation d'événements avec d'autres intervenants. Et puis par ailleurs, le côté que l'on imagine le plus souvent, action, combat, puis équipe, quoi. Enfin, je me rappelle de ça, l'esprit militaire avec ses camarades. Et l'armée recrute, on le voit souvent.
Tout à fait. Donc, voilà. Tout au long d'une carrière de militaire, moi j'ai 36 ans d'armée, donc tout au long je n'ai pas fait toujours la même chose et le même métier, heureusement, parce que sinon ça se deviendrait un peu lassant. Mm-hmm. Et c'est aussi un peu pour ça que beaucoup de personnes s'engagent. Donc donc je vous parlais tout à l'heure de la Tour Viala. La Tour Viala, on trouve aussi le centre d'information et de recrutement des forces armées.
Ah.
Alors malheureusement,
oui. Le CEITU.
Non, le CIRFA.
Le CIRFA. Ah.
Le CIRFA. Malheureusement, ce centre va fermer.
Ah, fermer?
À l'été 2014, dans le cadre des diminutions des effectifs.
Ouais.
Si vous suivez un peu l'actualité, nouvelle loi de programmation militaire, diminution d'effectifs.
Je ne sais plus combien. Complètement
réduit. Donc, ce centre va être dissous. Donc, il faut savoir que pour l'armée de terre, pour l'année 2013, on recrute en gros 10 000 hommes pour l'armée de terre. Cela se fait dans ces centres de recrutement et d'information des forces armées. Malheureusement, diminution d'effectifs, donc on supprime les centres. Donc pour ceux qui veulent s'engager, il y a un site, s'engager.fr, sans accent et sans...
S'engager, voilà, tout accroché en
s'engager, s'engager.fr, on se renseigne. Et ensuite, par internet, on peut prendre rendez-vous, soit au CIRFA d'Albi, soit au CIRFA de Cahors, suivant où son lieu de résidence. Donc pour les Aveyronnais, ça sera ça. On aura aussi, sans doute, pour l'instant c'est ce qui est prévu, des permanences. Donc ceux d'Albi ou ceux de Cahors viendront à Rodez, peut-être à Decazeville, pour faire des permanences. Bon, mais ça sera mis sur le site du recrutement.
Et en attendant, jusqu'à l'été 2014, les jeunes intéressés, garçons et filles d'ailleurs, peuvent encore venir Tour Viala.
Tout à fait.
Bon.
Tout à fait. Donc
tous les jours, comment on fait? Il y a un numéro de téléphone?
Alors, pour l'armée de terre, c'est tous les jours.
D'accord.
Ensuite, pour l'armée de l'air et la marine, ils ont une permanence une fois par mois. C'est pareil, c'est sur le site de la marine ou de l'armée de l'air pour savoir les jours de permanence.
Et donc il y a des interlocuteurs ici en Aveyron, voilà, pour les Aveyronnais qui souhaiteraient avoir l'information, voire s'engager dans l'armée.
Voilà.
Très bien.
Et sur l'Aveyron, vous recevez beaucoup de jeunes qui sont intéressés par l'armée?
En gros, par an, il y a en gros 200 contacts. 200 contacts, c'est quoi? C'est un jeune qui vient au centre d'information et de recrutement des forces armées, qui vient se renseigner. Alors, soit pour faire, pour s'engager, soit pour faire une préparation militaire. Donc, ça fait à peu près 200. Sur les 200, on finalise en gros 80 dossiers. 80 dossiers qui vont tout au bout. Donc, ils font leur visite médicale, leur test, etc. Et sur les 80 dossiers, on finalise, en fin de compte, 25 contrats en gros par an.
D'accord. Donc, chaque année, 25 Aveyronnais qui s'engagent dans l'armée française.
Voilà.
Très bien.
Dans l'armée de terre française.
L'armée de terre française.
D'accord.
L'armée de terre.
Beaucoup moins dans la marine, l'armée de l'air, puisque les effectifs sont moindres. Mais ça, c'est l'armée de terre.
On va terminer cette émission avec Monsieur Renaud Chouvert, Myriam.
Oui, tout à fait. Parlez-nous des différentes actions qui sont menées, notamment par des collégiens, puisque j'ai vu lors de chaque 11 novembre de jeunes gens qui viennent lire des lettres de soldats.
Oui, tout à fait, Myriam. Alors, on a une action assez importante, en liaison, comme le colonel d'ailleurs, en liaison avec l'éducation nationale et la direction académique, qui nous aide beaucoup. Et on va organiser effectivement, alors, des actions, des journées citoyennes aussi, on va organiser des rendez-vous et on fait participer, autant que faire se peut, et ils jouent très bien le jeu dans la plupart des cas. On fait participer des scolaires sur nos actions, sur les cérémonies, comme le 11 novembre, où on va avoir effectivement les élèves du Sacré-Cœur qui vont venir lire des messages, sur des cérémonies. Alors, il y a un côté plus... presque plus poétique sur des cérémonies comme Saint-Radegonde où on va faire participer des enfants, des jeunes enfants qui vont fleurir la tranchée des fusillés au 11 novembre, on va faire fleurir les tranchées des poilus par des enfants, etc. Donc il y a toute cette action et effectivement on a aussi, alors dans les partenariats forts avec l'éducation nationale et donc avec les jeunes et notamment les jeunes de collège, la mise en place d'un fanion départemental qui va être remis à un établissement pour l'année pour être le lien privilégié dans le cadre d'opérations mémoire. Donc cette année-ci, le détenteur du fanion, c'est le Collège du Sacré-Cœur de Rodez, et c'est avec eux qu'on va effectivement envisager un travail, alors à la fois un travail au sein de l'établissement, mais aussi une participation, on va dire, publique dans les cérémonies ou dans des événements qu'on va organiser, puisque l'année qui va venir est une année très riche pour nous, avec deux grandes commémorations, la commémoration du centenaire, oui. Le centenaire de la Première Guerre mondiale et la commémoration du 70e anniversaire de la Libération. D'ailleurs, comme je vous sens désireuse de voir des beaux parachutistes et qu'il n'y en a pas eu l'année dernière, eh bien, on va tâcher de vous en amener cette année-ci dans le cadre du 70e anniversaire puisque en Ouest Aveyron, on va organiser une grosse opération de commémoration sur les maquis, plusieurs maquis ouest aveyronnais qui avaient une grosse activité de parachutage. L'une des idées, entre autres, c'est de faire venir les parachutistes de l'équipe de l'armée de l'air.
Allez, on va terminer avec Ludovic Jurion, conservateur et créateur du musée de l'uniforme à Livignac-le-Haut, pour rappeler et vous demander, pendant les fêtes, c'est fermé ?
Nous sommes ouverts.
Ah bon ?
Tout le temps, à partir du moment où des gens veulent faire la démarche de s'intéresser à la mémoire et au patrimoine, ils nous contactent, ils prennent rendez-vous et on est toujours disponible. C'est un des maîtres mots de notre musée, c'est la disponibilité pour le public.
Et qu'on soit en groupe ou seul ?
En groupe ou seul, on s'attache justement à notre association, hein, puisque ce sont tous des bénévoles, s'organiser pour être disponible au maximum, parce qu'en fait c'est ça, le but c'est d'aller vers le public et d'être ouvert autant que possible dès que quelqu'un fait cette démarche. Juste pour revenir également, vous pouvez passer aussi par l'office du tourisme de la vallée du Lot à Flagnac, puisqu'on est un partenaire privilégié également de l'office du tourisme.
Très bien.
Juste une question, vous avez un bleuet, monsieur Chouvert, à votre costume. Pouvez-vous nous l'expliquer, parce que beaucoup d'enfants posent la question.
Alors le bleuet de France, oui, c'est une bonne question Myriam, c'est une question importante. Le bleuet de France, c'est en fait une fondation aujourd'hui qui date de la Première Guerre mondiale, qui était le moyen pour les soldats handicapés, les soldats blessés, de faire quelque chose de leurs mains et de faire une quête pour avoir de l'argent, puisqu'à l'époque, les subventions et les allocations n'existaient pas ou étaient très faibles. Donc le Bleuet de France est aujourd'hui une fondation qui fait deux quêtes par an et qui va récolter de l'argent pour améliorer le sort des blessés, puisqu'il y a toujours des blessés militaires, il y a toujours des handicapés militaires, et aussi pour financer des actions de mémoire, notamment des expositions. Donc il y a une quête du Bleuet de France le 8 mai, une quête publique, une quête du Bleuet de France le 11 novembre, c'est les petits gamins que vous voyez souvent, les scouts ou les anciens combattants avec des troncs, qui vont effectivement faire appel à la générosité publique pour améliorer le sort des militaires, des orphelins et aussi aider au financement de la mémoire.
Voilà, donc nous invitons tout le monde à suivre vos opérations durant l'année 2014. À toi David.
Et on va se quitter avec en disant au revoir au lieutenant-colonel Dominique Vuitton. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes, je le rappelle, délégué militaire départemental et on peut vous retrouver, en tous les cas pour tout ce qui est information sur le recrutement, Tourviala. Vous l'avez dit, au moins jusqu'à l'été 2014 et ensuite...
Pour ce qui est recrutement et ensuite pour toute autre question concernant la défense, vous pouvez appeler à la délégation militaire départementale, on vous renseignera, on vous orientera vers le service compétent.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Myriam.
Merci à vous tous.
Myriam Laure, responsable éditoriale du Petit Journal Aveyron. Et vous retrouverez dans le prochain numéro, sans doute, ces messieurs, nos invités en photo et le papier qui va avec, hein, Myriam.
Exactement.
En attendant une bonne fête, un bon Noël. Amusez-vous bien. Je dis pas encore bonne année, on n'y est pas encore. On verra ça à la rentrée. Hein. Allez, salut, bonne journée à tous en CFM.
Au revoir.
CFM sur le Grand Rodez. 107.9. CFM.